Bonjour, bonsoir. Nous sommes dans mon atelier situé à Romainville avec Mireille Blanc, artiste, Léa Bismuth, commissaire d'exposition et critique d'art, et Lorraine Beau, membre de DU. Il y a du bruit qui nous entoure et par-dessus, nous allons parler.
Alors, Mireille, je voulais qu'on discute un peu de ton travail. On a sous les yeux là un certain nombre d'images sur lesquelles on va revenir, qui sont autant de peintures, des objets qui semblent avoir une vie autonome. Et j'emploie le terme d'objet, je pense que ça va aussi être important dans notre discussion, cette idée que chaque image a une sorte de vie en soi qui se développe. Mais peut-être avant d'entrer dans le travail lui-même et dans ce sur quoi tu travailles aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de comment tu en es arrivé à la peinture et peut-être aussi de l'importance de l'enfance aussi dans ta démarche, si je ne m'avance pas trop.
Pour revenir donc au tout début justement à l'enfance, moi j'ai toujours beaucoup dessiné. C'était vraiment une pratique vraiment quotidienne quand j'étais petite. Et très vite j'ai eu envie de faire les beaux-arts, même si moi j'ai grandi en Lorraine, j'avais pas du tout de connaissance de tout ce que pouvait être aujourd'hui, par exemple être peintre ou pouvoir vraiment avoir cette pratique au quotidien, mais j'avais envie de faire ces études-là. Donc j'ai commencé par étudier aux Beaux-Arts de Nancy, où vraiment j'ai découvert ce que pouvait être l'art. Mais à Nancy, il y avait très peu d'ateliers de peinture. C'était pas du tout une pratique qui se faisait vraiment aux Beaux-Arts. C'était très conceptuel, c'était assez difficile même de vouloir peindre. Donc en troisième année, j'ai tenté les Beaux-Arts de Paris. Et là, vraiment, c'est en rentrant dans l'atelier de Philippe Cogner que je me suis vraiment mise à la peinture. Et pendant 4 ans, donc, j'ai peint dans cet atelier en nouant des vraies relations avec autant Philippe Cogner que les étudiants de l'atelier. Et c'est vrai que le travail, forcément, depuis la sortie, a évolué, mais même pendant les années d'études, où je faisais par exemple en entrant aux Beaux-Arts, comme beaucoup, enfin comme les trois quarts des étudiants en peinture, immédiatement des grands formats. Où c'est vraiment quelque chose que tout le monde fait en entrant aux Beaux-Arts. On va directement vers le grand format et même l'envie de faire des choses monumentales. On n'a pas forcément idée d'aller travailler sur un petit format. Et il y avait, c'est vrai, au départ, toujours la présence de la figure humaine. Alors déjà dans des situations ou dans des attitudes un peu incertaines et énigmatiques, ce qui m'intéresse d'ailleurs toujours, mais petit à petit elle a été écartée et aujourd'hui si elle est présente, c'est plutôt dans des fragments, dans des détails, ou alors même de manière détournée sur la question du visage qui va devenir un masque ou sous ces formes-là. Mais vraiment aujourd'hui s'il y avait un genre qui viserait un peu à circonscrire mon travail, ça serait celui de la nature morte, donc vraiment la question de l'objet, oui, elle est essentielle.
Donc la nature morte, l'objet, le fragment, et justement sur cette idée du fragment, est-ce que tu peux nous vraiment donner ta définition du fragment et comment ce qui se joue, c'est non seulement le fragment, mais c'est aussi le cadrage qui est un enjeu?
Complètement. Alors le cadrage, moi je travaille d'après photographie, donc le cadrage, il est vraiment. C'est vraiment un cadrage photographique. Souvent, je parle vraiment de fragments et j'aime bien parler aussi d'indices par rapport à mon travail, dans le sens où le fragment il est relatif à notre manière d'appréhender le monde de toute manière, vu qu'on ne l'approche que par morceaux, jamais dans sa globalité. Donc il y a ça qui m'intéresse déjà. Et puis la question du détail aussi, parce que en fait, il y a une sorte de paradoxe, parce que j'ai l'impression de mettre à distance mes sujets tout en m'en approchant le plus possible en fait. Donc en zoomant au plus près de l'objet, pour moi c'est une manière aussi de l'abstraire, dans le sens où c'est des fragments et souvent il y a un débordement du cadre, dans le sens où l'objet est resserré et serré dans un cadrage comme ça, et souvent il est morcelé, découpé et il déborde en fait. Et par rapport quand je parlais de format, le petit format il s'est imposé dans le sens où Je pense qu'il y a une question de densité, et puis j'aime bien dire que c'est des petits formats mais qui fonctionnent à une grande échelle. Dans le sens où le vide et l'extérieur du cadre est important aussi.
Quand on parle de fragments, est-ce que tu travailles d'après photographie, mais est-ce que tu reprends ou tu recadres dans la photographie au moment où tu peins, ou finalement c'est le cadre photographique qui reste fidèle après
Oui, c'est le cadre photographique qui
D'accord.
reste fidèle. Il y a vraiment une photographie à laquelle je vais rester très fidèle
D'accord.
et au point même d'avoir, si dans ma photographie il y a des bordures blancs qui sont manifestes du processus, elles vont être présentes dans la peinture. Vraiment, que je retravaille beaucoup mes images et les recadrages, ils sont au moment de la prise de vue, souvent une reprise de vue d'une photo ou alors des prises de vue d'un objet. Mais au moment où je vais avoir ma photo, je vais vraiment rester très fidèle. Même si après il se passe plein de choses au moment de la peinture, mais c'est vrai que la question du cadrage, elle est déterminante à ce moment-là. Et c'est pour ça aussi que c'est que des formats non standards, parce que c'est vraiment une photographie que je vais comment dire, retravailler en peinture de manière homothétique. Et du coup, c'est jamais des formats classiques.
Est-ce que tu peux justement nous parler un peu de ta méthode de travail avec ces photographies que tu prends? Parce que la spécificité, j'ai l'impression, c'est que tu ne travailles jamais à partir d'images récupérées ou d'archives, mais c'est des images que tu fabriques. Et donc à un moment donné, à l'origine du processus, tu es photographe d'une certaine manière.
Oui, c'est vrai, oui, il y a vraiment un lien à la photographie. Et mais ça va être. En fait, je pourrais pas travailler d'après des images qui existent déjà ou rechercher par exemple sur Internet comme font beaucoup d'artistes aujourd'hui parce que je ne sais pas ce que je rechercherais, je ne sais pas ce que je pourrais taper dans Google parce que j'ai pas. Je dis souvent que je travaille contre l'idée d'un sujet dans le sens où c'est vraiment l'objet ou une photographie qui va être le déclencheur d'une peinture en fait. Donc quand c'est des objets, c'est quand c'est un objet qui va m'intriguer ou me déranger ou il y a une sorte de fascination un peu dérangeante comme ça pour certains objets, je vais faire des séries de photos jusqu'à temps de retravailler ça après via Photoshop aussi pour trouver celle qui va aboutir à une peinture. Et quand c'est des photographies déjà existantes, donc la plupart du temps c'est des documents personnels, enfin des images d'albums de famille. Ça va être retravailler l'image, la recadrer, la refotographier, laisser des fois des traces de lumière apparentes. Il y a toute une sorte de mise à distance comme ça d'après une image d'origine. J'aime bien parler d'image source, vraiment. Et puis après, il y a des filtres successifs avant une sorte d'épuisement avant d'aborder la peinture. Qui vient finalement. C'est pour ça que des fois, la phase de peinture, elle est des fois plus courte que le moment où je vais choisir une image, la retravailler, où il y a toute cette espèce d'épuisement qui est assez long des fois, et de choix de l'image qui peut être plus long des fois que la peinture.
Est-ce que c'est des choses que, enfin, tes images sources, c'est des images que tu aimerais possiblement montrer un jour, lors d'une exposition?
Ben ça m'intéresse, oui, je les garde vraiment. Alors elles sont en général, elles sont tachées, elles sont. Des fois elles sont. J'ai une photographie qui va même être retravaillée avec du fusain ou des scotch ou des caches successifs. Et c'est vrai que je les garde, je les archive, et c'est vrai que je me pose la question de la monstration de ces images. Après, c'est vrai que c'est délicat parce que des fois on est proche. La peinture, c'est évidemment complètement autre chose, mais c'est vrai que je me questionne là-dessus.
T'entrevois des possibilités ou t'as des pistes par rapport à ça qu'on commençait ou
Non, après, j'ai tenté des accrochages où les images sources n'avaient pas encore été travaillées en peinture et où elles intégraient un accrochage. Par exemple, j'avais glissé une photographie avec des yeux, c'était un bois polychrome que j'avais photographié dans une église en Bretagne et je l'avais glissé sous un fusain qui représentait une coiffe. Mais vide, sans visage, et ça avait fonctionné de cette manière assez intuitive, mais j'avais pas retravaillé encore l'image en peinture. Mais je sais pas comment faire coexister par contre les deux. Je pense que. Alors non, un travail que j'ai fait récemment de vidéo, où c'était une commande d'une amie artiste qui s'appelle Catalina Niculescu, avec qui j'étais en résidence à Marseille. qui m'a proposé de faire une vidéo sur la notion de collection. Et j'ai accumulé toutes les images d'après lesquelles j'ai travaillé. Il y en a autour de 300 que j'ai pas, c'est pas vraiment une vidéo, mais c'est une succession d'images fixes. Et c'est une animation qui dure 1 minute 50. Mais c'est vrai que j'y ai pas pensé directement parce que ça a été montré à Oslo. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas forcément vu l'exposition. Mais pour moi, ça peut pas forcément coexister dans le même espace.
Et est-ce que les titres de tes images sources sont aussi le titre de
Ah
tes
non.
peintures?
Non, non, par contre, c'est vraiment un autre mode. C'est la première fois que je faisais ça, là, parce que je pense que c'était dans le cadre d'une exposition collective sur un champ comme ça, autour de la collection. Et ça m'a intéressé de faire ça en plus, parce que le fait de les animer comme ça très vite, on n'a pas le temps de focaliser son attention sur l'objet. Et j'ai l'impression que j'oserais pas non plus les dévoiler plus.
Et pour en revenir à tes peintures et à tes photographies aussi, qu'est-ce qui déclenche en fait l'envie, est-ce que tu pourrais qualifier ce qui déclenche l'envie de passer à la peinture et peut-être aussi l'envie de photographier à un moment donné telle image et pas une autre?
Alors là, il y a vraiment, c'est là vraiment quelque chose d'intuitif. Je saurais pas exactement le définir, je sais pas pourquoi, je sais pas, là on a sous les yeux par exemple, c'était une photographie d'un jeu pour enfants avec une tête de panda assez improbable. Je saurais pas dire pourquoi elle m'a intriguée à ce moment-là. Il y a, je pense, quelque chose toujours qui me dérange, parce que c'est des images qui doivent avoir des failles ou des sortes de déraillements, enfin quelque chose qui fait que ça va suffisamment m'intriguer pour avoir envie de la peindre. Et en général, j'aime bien justement pousser ces images le plus possible vers une forme d'abstraction où on perd encore un peu plus de données, en tout cas où il y a un doute qui persiste par rapport à ce qu'on voit. Et j'aime bien, en général, il y a aussi un rapport toujours au leurre, à l'artifice qui m'intéresse.
Donc que tu parles de failles, d'indices comme tout à l'heure, de fragments ou de leurres, finalement à chaque fois tu déjoues une certaine narration.
Oui, ah oui, complètement. Ouais. Pour moi, il n'y a pas forcément de narration, il n'y en a même pas du tout. Pour moi, c'est vraiment voilà, des indices qui fonctionnent à chaque fois comme une sorte de suspens sur chaque peinture, finalement, mais il n'y a pas de narration. Ouais.
Par rapport à la narration, moi j'ai un petit peu observé dans les textes qui ont été écrits sur ton travail que la narration, en tout cas, se faisait assez rapidement et assez fréquemment par les auteurs des textes qui écrivent sur ton boulot. Donc je sais pas qu'est-ce que toi tu en penses déjà, et peut-être que la narration, du coup, c'est les gens ou les visiteurs qui se la font, ça je sais pas, mais en tout cas, c'est pas pour moi tout à fait hors narration, puisque en tout cas dans...
Oui. Oui, c'est vrai, oui, je me suis fait cette réflexion-là aussi. Après, c'est vrai que ça, c'est des choses qui viennent, j'ai envie de dire, après, et auxquelles je pense pas quand je vais peindre. Après, forcément, quand on visite une exposition, il y a forcément une circulation, un parcours, et moi, je me rends compte aussi qu'il y a il y a des sujets qui sont récurrents et que j'aborde fréquemment, le gâteau, ou alors les motifs sur les tissus, sur les vêtements. Donc, et puis de toute manière, il y a une forme de quotidienneté et voire de banalité dans certains sujets. Donc je pense que oui, après, mais ça revient à chacun. Et moi, je suis vraiment pour laisser libre le regardeur de se faire un parcours. Mais c'est vrai que des fois, c'est surprenant parce qu'on découvre un cheminement auquel on n'a pas forcément pensé. Et la personne se recrée une histoire que moi, j'ai pas du tout. Prédéterminé.
Même si les sujets que tu abordes ne sont jamais anodins. Enfin, quand tu vas peindre tel objet et pas un autre, je pense à des objets issus de l'art populaire, à des bouteilles de verre. Là, on voit ce lustre en corolle, c'est un lustre qui apparaît comme ça, comme une sorte de fleur très étrange. On est quand même dans quelque chose qui est très restrictif dans ton choix de sujet,
oui.
Même si c'est pas un sujet de la peinture, mais...
Mais ça, oui, ça, c'est difficile à expliquer parce qu'il y a une grande part d'intuition dans ce choix-là. Même si c'est vrai que je dis que je travaille contre l'idée d'un sujet, il y a quand même des choses qui reviennent et qui sont Oui, de l'ordre de l'objet parfois un peu kitsch, un peu suranné, qui ont un rapport à un certain passé commun. Et je me rends compte que c'est ces objets-là qui m'intéressent et qui m...
Est-ce que c'est un rapport à une sorte de monde parallèle, pas forcément le monde du rêve, mais ou le monde de l'enfance, mais un monde qui se jouerait à côté, et d'où cette espèce de monde déraillant, défaillant, qui en même temps ne dit pas qui déraille et qui défaille. Enfin.
Oui, je vois pas forcément comme quelque chose à côté.
Ouais.
Moi, je vois plus comme des espèces de fragments de réel, mais qui font qu'ils échappent suffisamment pour que, je sais pas comment dire, mais on se rattache forcément à quelque chose de l'ordre du réel, mais en même temps qui se révèle pas immédiatement et qu'on n'identifie pas forcément. Et j'aime bien qu'il y ait ce doute-là. Mais c'est un doute que j'ai moi-même dans ma manière de vivre aussi. Une sorte de méfiance par rapport à certaines images ou par rapport à certains objets. Et je pense pas forcément à un monde, en tout cas pas forcément à côté, plutôt non, vraiment
Tu parles
une
d'une.
autre manière de voir certains objets,
Tu parles
les
de méfiance
mémorielles.
envers certains objets ou certaines images. Il y en a qui te viennent là spontanément à l'esprit.
Non, pas forcément, non, non, c'est plus. C'est plus ce que je recherche en fait, oui, ce doute par rapport au visible. Et c'est ce qui va m'intéresser dans la peinture, c'est qu'il y ait toujours un aspect énigmatique des choses et de pousser en fait les figures vers leur désidentification ou vers l'abstraction. Quand je parle d'abstraction, c'est pas une abstraction pure, c'est enfin, plutôt une contrarier la figuration, en tout cas.
Contrarier le contexte
Oui,
aussi.
aussi, oui.
Et du coup, est-ce que tu peux venir à la matérialité même des peintures, nous dire comment tu les peins, comment elles apparaissent?
Alors, parallèlement au fait d'avoir, entre guillemets, rétréci les formats, il y a eu une sorte d'adéquation qui s'est faite entre la matière et le format. Quand je peignais des plus grands tableaux, il y avait des sortes de jus transparents. Et puis petit à petit, la matière s'est épaissie et les toiles sont devenues plus petites. Et je pense que c'est une question de densité. Et moi, j'aime bien la dimension haptique de la peinture. Voilà, toucher du regard en fait. Et pour moi, dans cette espèce de matière épaisse, parce que même si c'est pas non plus très épais, mais il y a quand même une certaine épaisseur de l'huile et de la touche, il y a quelque chose de. Ouais, qui induit une proximité
C'est très épais et par moments c'est même à la limite de l'informe. Enfin,
Oui.
le regard peut être gêné aussi. Il y a peut-être quelque chose de l'attraction, répulsion.
Oui,
Enfin,
complètement, ouais. Mais ça, oui, complètement, et même.
dans la crème là du gros gâteau là,
Oui, il
par
y a quelque chose
exemple.
en même temps de. Mais ça, c'est vraiment aussi le plaisir de la peinture, de l'huile particulièrement. Il y a quelque chose d'assez jouissif quand on peint. Enfin, moi, quand je peins à l'huile, il y a vraiment cet aspect-là du travail. Vraiment, là, c'est vraiment en termes de, voilà, de travail d'atelier. Et puis, en même temps, j'aime bien qu'il y ait ce côté presque des fois, comme tu dis, attraction-répulsion. Il y a un truc où des fois presque. En trop en fait dans la matière et ça m'intéresse. Moi j'adore même quand on dit quand on peut faire référence à la croûte. Pour moi les croûtes de Gazirovski, je trouve ça
Ouais.
magnifique. Donc ça m'intéresse aussi oui d'aller parfois à la limite d'une certaine forme de mauvais goût même dans le choix des objets. Hein, ce gâteau c'est une peinture qui s'appelle donc céramique et c'est d'après un gâteau que j'avais fait en céramique blanche émaillée. Et du coup, des années après, je l'ai refotographié pour le peindre. Mais il y a quelque chose d'un peu, à la limite, écœurant. Mais ça m'intéresse aussi, ouais.
Et pour parler de cuisine de la peinture, justement, comment tu travailles? J'ai cru comprendre que toutes tes peintures, toutes tes toiles étaient le fruit d'une séance de travail unique.
Oui. Oui, parce que mais ça, c'est lié aussi à la matière. Et puis à la densité, une sorte d'un temps comme ça où ça va être quelques heures en général, sauf les plus grands formats, mais il y en a peu. Mais j'aime bien travailler en une séance de travail de manière à ce que je puisse retravailler à n'importe quel moment, n'importe quel endroit de la toile. Et ça, j'aime vraiment ça. Je sais que là, par exemple, en résidence, j'ai fait des plus grands formats. Et quand j'arrivais le lendemain matin, alors peut-être que j'emploie pas les bons médiums, mais j'aime en utiliser le moins possible. Et quand j'arrivais et que la peinture avait séché, il y a quelque chose qui m'ennuyait, quoi. J'aime vraiment pouvoir retravailler tous les endroits de ma peinture, qu'elle reste humide. Et puis c'est une question d'intensité, de travail qui me convient bien comme ça.
Donc tu fais quand même quelques grands formats alors.
Quand même.
Et pourquoi?
Ça va vraiment être le sujet. De toute façon, c'est toujours le sujet qui impose le format. Mais c'est plus rare, hein, parce que en fait, moi, je vois pas l'intérêt de l'agrandissement. Je me vois pas faire représenter les objets que la plupart du temps je peins en 4 mètres sur 3. Pour moi, ça ferait pas sens. Ils imposent souvent le petit format. C'est comme quand je parlais de cadrage qui déborde et tout, je pense pas que je puisse retrouver ça dans le grand. Enfin, ça serait pas du tout la même chose, ça serait pas le même rapport au corps, au regard, à la touche, enfin plein de choses. Et les grands formats, oui, c'est quand un objet ou une photographie, j'arrive que à la voir en grand, donc dans ce cas-là, je vais vers le grand format. J'avais fait ça avec une peinture, quand tu parlais de la bouteille, où là, c'était une bouteille en verre qui représentait un moine avec un sourire grimaçant. Et là, pour le coup, j'avais pas envie d'en faire un petit objet, j'avais envie de l'agrandir au point que le visage devienne un visage à l'échelle 1. Mais c'est plus rare, oui. Et puis, pour être complètement honnête, il y a quelque chose qui m'ennuie plus dans le grand format. Moi, j'aime que une sorte de rapidité d'exécution dans la peinture. J'aime que ça soit fait en une séance et pouvoir, à la fin de la journée, avoir achevé quelque chose. Voilà.
Tu en détruis beaucoup?
Non, j'en fais pas, j'ai pas une pratique. Bien sûr, j'y pense tous les jours, je cherche des images et tout ça, mais j'ai pas une pratique. Je me mets jamais devant une toile blanche et je commence à peindre, donc le choix de l'image est long et du coup, non, je détruis peu. Après, il y en a que je garde et que je sais que je montrerai pas ou que je trouve moins intéressante, mais je jette peu.
Et pour parler de ta palette, est-ce que tu penses avoir une palette? Et est-ce que tu penses aussi que cette espèce de blanc sali, que je l'appelle comme ça,
Oui, c'est très bien,
est
blanc
récurrent?
sali. Oui, il est récurrent. Alors après, ça c'est toujours assez drôle aussi parce que quand je regarde justement, pour parler vraiment de palette, à la fin des séances de travail, je me rends compte que j'arrive toujours à une sorte de matière informe, grise, qui tend toujours vers le gris, ou la couleur en tout cas salie. Et on m'a plusieurs fois fait la réflexion en me disant que mes palettes étaient très sales. Et je peux retravailler une toile le lendemain à partir de la même palette. Donc avec une partie qui aura peut-être un peu séché et à partir des mêmes couleurs un peu sales. Mais pour revenir à ce blanc et ce gris, je me rends compte que quand je retravaille mes images, je les désature souvent. Et que je pense qu'il y a une tonalité affective du passé, de l'objet un peu suranné, du gris. Qui m'intéresse, c'est que c'est vrai que les couleurs vives ou franches, elles viennent vraiment, j'en mets souvent, mais vraiment dans des petites touches. Si on met vraiment le nez dessus, on va souvent voir un jaune, un bleu, des violets, mais vraiment, ça va être des petites touches, et c'est vrai que je sais pas, ça va me faire peur, mais c'est vrai que ça tend toujours vers le gris ou le blanc.
Et j'ai vu ton travail à trois reprises de manière sérieuse au Salon de Montrouge en 2011, à la galerie Éric Mircher et plus récemment donc dans ton exposition personnelle à la galerie Dominique Fiat. Est-ce que sur ces quelques années de début de ton travail d'adulte, d'artiste adulte, est-ce que tu vois une évolution dans ta démarche?
Oui, je la vois. Après, elle n'est pas depuis, par exemple, depuis le Salon de Montrouge, c'était en 2011. Il n'y a pas eu de rupture majeure. C'est plus une évolution. Mais je pense que moi, on va dire que je suis très jeune artiste. Si on... Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que je me rends compte que je m'autorise plus de choses depuis quelques temps, parce que je suis sortie des Beaux-Arts en 2009, donc ça fait quand même pas longtemps. Mais en même temps, il y a des choses que je ne me serais pas autorisée à peindre en sortant de l'école, je sais pas comment dire, mais j'avais une pratique qui était bien plus calquée sur un discours qu'on nous apprend à formuler aux beaux-arts, plus théorique, qui correspondait vraiment à une des sortes d'écrits que je pouvais avoir, et je calquais ça là-dessus. Aujourd'hui, souvent les toiles qui m'intéressent le plus et qui restent, c'est, je me rends compte, ou les plus fortes, c'est celles que, avant de les peindre, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est trop gonflé, ou je me dis, mais ça tiendra jamais, je peux pas peindre ça. J'avais fait par exemple une toile d'après un canevas d'un chat assez improbable, et avant de la peindre, je m'étais dit, mais c'est casse-gueule, et finalement, c'est peut-être les toiles les plus intéressantes, donc peut-être plus de liberté. Et après l'évolution, ouais, c'est difficile, moi, d'analyser ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens.
Et aux Beaux-Arts, tu étais aux Beaux-Arts de Paris, tu étais dans l'atelier de Philippe Cogné. Est-ce que ça t'a apporté des choses intéressantes? Vous aviez eu des discussions à l'époque. Est-ce que tu te sens une sorte de dette envers lui, envers son enseignement?
Oui, je pense que on a eu beaucoup de discussions. C'était un prof qui nous a tous donné vraiment une belle énergie. Et puis on était un très bon groupe avec des jeunes artistes que je côtoie encore quotidiennement. Donc ça, c'est hyper important. Peut-être largement autant que l'échange avec Philippe Cogné, c'était l'échange avec les autres étudiants de l'atelier. Et on avait chacun des pratiques très différentes, donc ce qui fait qu'on s'influençait pas trop, mais en même temps, c'était vraiment hyper important, et ça m'a, je pense, beaucoup beaucoup nourri, l'échange avec
Et
nos étudiants.
pour en revenir à la place de la peinture aussi, depuis un certain nombre d'années, on a vu réapparaître une scène picturale importante, qui accorde une place importante aussi à la dimension figurative, même si tous ces débats-là ne sont plus tout à fait d'actualité. Et je crois avoir discuté avec toi il y a quelque temps aussi de l'influence, par exemple, que quelqu'un comme Bruno Perramant pouvait avoir eu sur toi. Comment justement, voilà, tu as pu trouver des pères aussi, soit dans l'histoire de l'art, on pourrait en parler, mais aussi dans les artistes contemporains vivants.
C'est vrai que si par rapport à l'histoire de l'art, moi j'ai beaucoup regardé Manet ou Morandi, Chardin, donc voilà. Mais après, je me sens proche des peintres belges, peut-être plus que des peintres français de la même génération. Je pense à Tumance ou Bormans ou l'école de Cluj aussi. Je trouve que, par exemple, le travail de Victor Mann, il m'intéresse beaucoup, ou celui de Willem Sasnal aussi. Donc voilà, c'est des peintres que je regarde. Après, je sais pas, moi j'ai grandi en Lorraine, donc il y a peut-être quelque chose géographiquement signifiant, mais.
Et quand tu dis que tu les regardes, est-ce que tu as une pratique des expositions de manière
Assidue.
ouais,
Oui,
assidue?
je regarde quand même beaucoup ce qui se fait. Ici, d'ailleurs, oui, bien sûr, oui.
Est-ce qu'il se fait aussi dans d'autres pratiques que la peinture?
Oui. Oui, ça intéresse aussi beaucoup. Mais je trouve ça. Moi, même si je fais de la peinture sur de l'huile sur toile, il y a un côté. Enfin, on pourrait dire que c'est une peinture très classique. Mais ça m'intéresse pas forcément de cloisonner le médium, en tout cas. C'est pour ça que dans des accrochages, j'ai pas mal expérimenté le fait de faire coexister avec du dessin ou avec même de la photographie. Enfin, ça m'intéresse d'ouvrir plutôt ce champ-là. Et bien que je travaille donc voilà, c'est des huiles sur toile, mais le rapport à la photographie, par exemple, pour moi, il est vraiment important dans ma démarche. Je pense que Oui, le cadrage, il vient vraiment de là. La composition, elle vient de là. Pour moi, je compose pas. C'est vraiment quelque chose qui est très lié à l'image photographique, par exemple.
Dans
Donc, c'est
ta
vrai que j'aime
dernière.
pas. Je me ferme pas du tout aux autres médiums.
Dans ta dernière exposition, d'ailleurs, il y avait du fusain aussi.
Oui, ouais. Je voulais plus mêler les dessins aux peintures dans l'accrochage. Dans la précédente exposition, j'avais réservé une place un peu à part pour des dessins peut-être que je concevais sous un autre mode. Et là, j'avais plus envie de les mêler et puis justement de créer des sortes de disjonctions aussi dans des écarts de hauteur d'accrochage, par exemple. Mais oui, j'ai une pratique aussi du dessin en parallèle, qui est pas, je fais pas de dessin préparatoire, qui est vraiment un autre mode.
C'est quoi ce mode du coup?
C'est difficile. C'est quoi ce mode?
Non, est-ce
C'est
que tu les travailles d'après photo? Est-ce que tu commences avec ta feuille blanche ou
Il y a quelque chose peut-être de plus spontané finalement, où je il n'y a pas tant de préparation, pas la même préparation que que les images d'après lesquelles je vais peindre. Et puis c'est vraiment quand je parle de mode, c'est vraiment un autre mode d'image, enfin, un autre type d'image vraiment, d'image source dans le dessin. C'est pour ça que en général un sujet que je vais aborder en dessin, je peux pas l'aborder en peinture et vice-versa en fait. Voilà.
Est-ce que tu pourrais te livrer à un petit exercice radiophonique qui consisterait à nous parler de ton dernier tableau, celui du daté du 20 février 2014,
Parce qu'il n'a pas de titre, donc j'ai mis une date.
qui d'ailleurs n'est pas facile à comprendre
Non,
visuellement.
oui, je pense que mais quand je parle de tendre vers l'abstraction, c'est vraiment vers là que je voudrais aller. Alors, pas de manière systématique, peut-être, mais en tout cas, à ce que dans certaines peintures, on identifie vraiment difficilement, voire plus le sujet, en tout cas, qu'il y ait des bribes comme ça qui nous rattachent à quelque chose, mais qu'on puisse pas forcément identifier, que les choses se révèlent petit à petit. Donc cette peinture, elle fait référence aussi à une autre que je présente en ce moment à l'exposition qui s'appelle Archives Lustres, où j'ai refotographié des sortes d'accumulations d'images, noires et blancs. Et ce qui m'intéressait, c'était ces superpositions et ces images planes, et retravailler ça en peinture. Et puis c'était d'après des images en noir et blanc, et du coup le fait de les refotographier, souvent je pars de photographies très pauvres quand je peins, je les imprime sur des imprimantes de mauvaise qualité, et en général le fait de refotographier, ça réinjecte de la couleur. Donc là il y a une sorte de violet bleu que voilà que j'ai retravaillé vraiment ça en peinture, tout ce qui va se passer. Entre l'image de départ et la peinture, tous ces filtres, je les laisse apparents, les traces de lumière, les morceaux de scotch, les brillances, tout ça, ça m'intéresse parce que, oui, paradoxalement, il y a une mise à distance et en même temps, on s'approche de plus en plus du sujet, quoi. C'est à peu près
C'est
ça.
presque du montage.
Oui, là, il y a vraiment. Ouais, c'est marrant parce que j'arrive pas à parler de composition vraiment, mais pour le coup, oui, il y a quelque chose de l'ordre du montage. Avec des sortes de séquences comme ça. Voilà.
Et ça nous ramènerait aussi peut-être au cinéma de parler de montage. Est-ce qu'il y a des cinéastes qui t'intéressent?
Alors oui, mais c'est vrai que je vois pas forcément directement de lien avec ma peinture. Pour le coup, autant je pourrais parler de photographe, par exemple, un photographe que je regarde énormément et qui ferait certainement partie des artistes qui m'intéressent le plus, ça serait Wolfgang Tillmans. Mais c'est vrai que les cinéastes, je pourrais pas en citer un qui serait directement en lien avec avec ma peinture.
Est-ce que
Étrangement.
la littérature vient aussi un peu innerver tout ça et t'orienter?
Oui, mais c'est pareil, c'est plus. Je peux pas. J'aurais du mal à parler directement d'influence directe. Bien sûr, il y a des écrits qui restent et qui marquent. Beaucoup d'écrits sur l'art aussi, mais c'est difficile de faire directement des liens. Quand je parlais du détail, j'avais des citations de Didier Huberman, par exemple, dans La peinture incarnée, où il a vraiment formalisé des choses que je. C'est pas que je faisais. C'est pas que c'est quelque chose qui s'opérait dans mon travail. En tout cas, j'ai pu lire ce que je pouvais percevoir quand il dit que. Il parle du détail et il dit, par exemple, que dans le détail, les déterminations oscillent et que le fait de s'approcher vraiment revient. Il dit que ça revient à mettre la vision en obstacle. Et c'est vraiment ça, en fait, qui m'intéresse. Donc ça va être des écrits comme ça sur l'art qui vont vraiment être déterminants.
Je crois pour le dossier à Montrouge, tu avais parlé de Gazirovski, mais tu avais parlé aussi d'Édouard Levé. Je ne sais pas
Ah
si
oui.
c'était ses écrits ou si c'était ses...
C'était son travail, pas par rapport à Montrouge, c'est quand j'avais rencontré Stéphane Correa. Je lui avais montré une petite édition que j'avais fait de travaux sur papier. Et sur la première page, j'avais mis un extrait d'autoportrait d'Édouard Levé où il disait, alors je connais par cœur cet extrait, il disait « Je regarde les photographies anciennes de plus près que les photographies récentes, elles sont plus précises et leurs détails plus signifiants. » Enfin, la fin, je ne me souviens plus exactement, mais il m'avait dit qu'il aimait bien ce rapport à Édouard Levé. C'est un extrait. Je préfère ses écrits que son travail photographique.
On peut peut-être terminer là-dessus. Je ne sais pas si toi tu as des choses à rajouter, des éléments qui seraient restés des trous noirs de notre conversation.
Non, on a abordé pas mal de choses. Après, c'est vrai que dans le cadre d'un travail comme ça, radiophonique, c'est difficile de réagir sur des choses qu'on voit pas forcément, qu'on n'a pas forcément sous les yeux. Donc après, je sais pas si vous avez d'autres
questions. Non, moi, c'est des questions que je pose un petit peu à chaque personne avec qui on fait des entretiens. C'est, est-ce qu'il y a des critiques qui sont un petit peu récurrentes dans ton travail et que les gens te font, qu'elles soient positives ou négatives? Est-ce que tu as une manière de t'y confronter ou de les mettre de côté? Ou est-ce que de quelle façon tu te positionnes par rapport à ça?
Des critiques, il y a eu pendant un moment, et je pense que c'est un peu toujours plus ou moins latent, cette question du format. Je sais que quand j'ai passé mon diplôme aux Beaux-Arts, j'ai vraiment eu la sensation qu'on me demandait de justifier le petit format. Alors qu'on demandait, je pense pas qu'on demandait à d'autres peintres d'expliquer pourquoi ils n'allaient pas vers le petit s'ils faisaient du grand. Et moi, on m'a vraiment demandé de justifier ça. Parce que peut-être on a plus l'habitude aujourd'hui de voir des travaux qui se déploient en grand format, mais comment je le justifie? Bah oui, toujours par la même chose, en parlant du sujet, de l'objet qui impose ça. Et puis pour moi, il se passe autant de choses dans des peintres qui travaillent en petit format, que ce soit des peintres, je regarde, je sais pas moi, Manet ou par exemple aujourd'hui Bormans ou Victor Mansch, et qui fait des très petites toiles que je trouve des fois plus intéressantes que ces très grands formats. Voilà, c'est peut-être ça. Et puis après, on parle souvent, oui, de référence, mais finalement, c'est vrai que Luc Thuymen, c'est un peintre qui m'a énormément, que j'ai énormément regardé, que je trouve conceptuellement hyper intéressant. Donc, ça me pose pas vraiment de problème. Peut-être que dans 10 ans, ça me posera problème, mais. Ça me dérange pas qu'on me rattache à des peintres que j'aime bien et que je trouve intéressants. Non, voilà.
Et dans le... Parce que c'est vrai que du coup, tu parlais de tes études. C'est vrai que vous êtes une vraie bande de peintres, on va dire. Et est-ce que tu noues d'autres rapports avec d'autres artistes? C'était un petit peu la question de Léa tout à l'heure. Mais est-ce que du coup... Voilà, un sculpteur, t'as d'autres... quand il parle de ton travail, est-ce qu'il y a des choses qui se déclenchent de manière différente? Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, le regard est différent en général, mais ça peut être autant intéressant, évidemment. Oui. Après, c'est vrai que ce milieu-là, des fois, il fait qu'on se regroupe. C'est pas une sorte de regroupement, mais c'est vrai qu'on... C'est difficile des fois d'aller vers des gens. Enfin, j'ai des travaux de sculpteurs que j'adore et que je connais pas. C'est plus difficile d'aller vers eux et tout. Donc c'est vrai qu'il y a cette espèce de groupe de peintres. Mais il y a je trouve l'échange autant intéressant avec des gens d'autres médiums et qui peuvent, oui, qui voient le travail en général très différemment. C'est vrai qu'entre peintres, il y a tout de suite ce truc de technique et on se pose des questions des outils, du médium et tout. Alors qu'un sculpteur, il va aborder le travail différemment. C'est vrai, ouais.
Et dans le... Parce que c'est vrai que du coup, tu es très près des objets. Et, et c'est aussi pour ça que je crois qu'il y a quand même beaucoup de sculpteurs qui regardent ton travail.
Par rapport à l'objet, oui, c'est vrai.
Et toi, quel type de sculpteur tu regardes? Quel artiste sculpteur tu as une sorte de connivence ou d'affection par rapport à son traitement de l'objet ou,
J'aime beaucoup le travail d'un jeune artiste qui était d'ailleurs au Beaux-Arts avec nous, mais que j'ai pas connu vraiment au Beaux-Arts, qui est Marion Verboux. J'aime bien son approche de la sculpture. J'aime beaucoup aussi les artistes qui vont être un peu protéiformes. Je pense à l'exposition, pas forcément sa dernière exposition, mais je pense à Aaron Curry qui a un rapport à la sculpture que je trouve très intéressant. Qui d'autre? Après, quand je parlais de Victor Mann, pour moi, c'est autant un sculpteur qu'un peintre parce qu'il a une manière d'aborder l'objet que je trouve vraiment très, très forte. Là, comme ça, c'est. Mais c'est vrai que même d'autres médiums, on parlait de cinéma, mais autant on peut parler de vidéo. C'est vrai que là, les deux dernières expos qui m'ont vraiment. Parce que j'ai fait un tour des galeries il y a quelques jours, et les deux expos qui m'ont vraiment bluffé, c'était Ta Citadine chez Marianne Goodman et Camille Henrot chez Kamel Mennour. Et pourtant, voilà, enfin, c'est des médiums très différents, la vidéo, mais c'est vrai que je les ai trouvés. Ces questions de montage, les questions. Ouais, qu'elles soulevaient dans leurs travaux, c'était très intéressant. Ouais. Donc je pense que tout ça, ça nourrit le travail, mais c'est difficile de savoir à quel niveau et comment ça se manifeste après dans notre pratique en fait. Et c'est vrai que je constitue sur mon ordinateur des sortes d'inventaires d'images, et il y a beaucoup de peintres, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres artistes, hein, il y a beaucoup de photographes. Des sculpteurs, ouais, des.
Quels sont tes prochains projets? Les projets
Pour les
d'exposition, de
expositions,
résidence ou...
alors là, la résidence, je reviens d'une résidence à Chamalo et on va avoir l'exposition qui fait suite à la résidence là au mois d'avril. Et puis peut-être un deuxième volet, entre guillemets, de l'exposition qu'on avait. Faite au mois de juin dernier, Saxifraga Umbrosa, avec justement des amis artistes, alors issus du même atelier, mais pas forcément que peintres, et Marianne Desrien qui avait fait cette proposition. Voilà.
Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous décrire ta journée de demain ou si tu préfères ta journée type de travail?
Je peux dire la journée de demain parce que c'est
La journée de demain.
prévu. Moi, je peins dans. Donc, j'ai un. Mon atelier dans mon appartement, et j'adore cette conception-là de l'atelier. Donc quand je me lève, j'ai pas de trajet à effectuer pour arriver à mon atelier, et j'aime bien ça. Il n'y a pas vraiment de distance, et puis le fait d'être tout le temps dedans, ça me plaît aussi. J'ai besoin de temps en général à l'atelier, j'arrive pas à m'y mettre directement. J'ai besoin de 1 ou 2 heures, je sais pas, un temps qui, comme ça, où il n'y a pas forcément grand-chose qui se passe, mais de recherche ou de réflexion. En général, j'ai pas mal d'images qui sont sur les murs, et je vais en choisir une, et puis il y a encore une petite phase de recherche avant d'aborder la peinture. Et après, quand je peins, voilà, c'est plusieurs heures. Puis il y a cette dernière phase qui est ma préférée, c'est quand l'image est presque finie, la peinture est presque terminée, et ça va être les dernières touches, des choses un peu imperceptibles peut-être, mais qui vont finaliser un peu la peinture. Voilà.
Bon, eh bien, merci Léa, merci Mireille, et puis merci Lorraine, et puis à très bientôt.
Merci.
Merci.